Salut à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode du CKB Show. Comme d'habitude, je suis accompagné de Thomas en ce beau dimanche ensoleillé. Comment vas-tu Thomas ?
Salut Nico, ça va bien. Il n'y a pas trop de soleil chez nous par contre, mais ça va. Ça reste un dimanche, donc t'as bon sur 50% de la phrase.
Ah, c'est pas mal déjà. Hein. Mais on va voir que j'ai souvent juste à 50% du temps dans tout le débrief du CKB Show. Tu vas voir, la moitié du temps, j'ai raison. Puis l'autre... Ben, j'ai pas raison. au programme de la journée, on a beaucoup, beaucoup de choses. On va parler évidemment de Google, mais aussi de ses concurrents, puisqu'on a des choses à dire peut-être Apple, non, je sais, je crois pas. Tu peux me trouver une news à... Alexa, sur ça. On abordera comme d'habitude évidemment l'actu chaude de Chrome OS et des Chromebooks. Et puis on parlera des nouveaux produits, du nouveau matériel qui a fuité à droite à gauche et qui va sûrement émerveiller les utilisateurs de produits Google. Tu es parti, tu es chaud là, c'est bon, on a tout dit.
Je suis chaud, ouais. Et c'est marrant, juste au moment où tu commences à parler, la qualité tombe un petit peu, donc j'espère que la connexion internet va pas faire des siennes en plein milieu de l'enregistrement. Mais bon, on a globalement compris ce que tu essayais de nous dire, et voilà. j'espère que ça va
j'ai
venir.
50% du temps juste. La moitié du temps on m'entend, l'autre moitié on m'entend pas. Et j'ai juste que quand on m'entend pas.
Parfait.
Alors, on va commencer rapidement sur les news autour de Google et compagnie.
Google et compagnie. Ouais, c'est parti.
Google et compagnie, ouais. Il s'est passé plein de choses. C'est plein de choses ce mois passé, là. On en a qui est intéressant. Alors, c'est pas vraiment une news, celui que je voulais aborder, mais je me suis posé une question. Je vais vous la poser. Est-ce que Google veut devenir le nouveau Amazon ? Est-ce que tu as une réponse à ça, Thomas ? Est-ce que pour toi, tu crois que Google veut s'attaquer au marché d'Amazon ?
Je dirais oui. C'est ma réponse.
Bravo, merci. On passe à la news suivante.
Non, mais alors, on parle de Google Shopping. Alors, il faut savoir que c'est pas nouveau. Hein. C'est vrai que Google Shopping, enfin, l'onglet Shopping existe depuis je sais pas, des années, voire peut-être même une décennie maintenant dans Google. Et à une époque, d'ailleurs, Google avait même essayé de concurrencer Amazon en direct et le fait d'ailleurs toujours par l'intermédiaire de Google Shopping Express, pardon, Google Shopping Express, qui était une division de Google assez consommatrice de ressources financières en particulier. Et l'idée, c'était d'avoir une livraison à domicile. Alors, c'était aux États-Unis et juste dans certaines villes pendant tout un moment, d'avoir la livraison dans la journée, en fait, pour concurrencer directement Amazon Prime. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Amazon Prime dans l'heure, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un nom. Bref.
Je peux pas oublié. Dire. Moi, j'habite dans une campagne. Je sais pas ça.
L'Amazon. J'arrive plus à trouver Prime. Le nom. Bon, je vais retrouver. Prime
mais, Express rapide en une heure.
Avec la livraison, en une heure, c'était juste à New York et ils faisaient aussi la livraison dans la journée. Je me rappelle plus du nom de l'offre. Mais bref, tout ça pour dire que Google avait essayé de concurrencer directement Amazon sur le plan de la livraison des courses. Hein. Là, on parle vraiment de la livraison des courses. Vous pouviez commander vos poireaux et vos sachets de soupe directement via Google. Il semblerait que Google Shopping Express est plus ou moins ralenti, on va dire. Je pense que ça a pas complètement disparu, mais c'est clairement plus le focus de Google. Mais par contre, ce dont tu nous parles, c'est de l'onglet Shopping. C'est ça, Nico ?
L'onglet shopping. Alors moi, je suis retombé dessus par hasard. Je savais pas quoi faire sur Internet et quand on sait pas quoi faire, on cherche des trucs et puis je suis retombé dessus complètement par hasard. Je cherchais à m'acheter un mug. Petite histoire bien pourrie avec le logo de My Chromebook dessus. Et évidemment, personne n'en fabrique. Hein. C'est étonnant. Donc du coup, j'ai cherché, je suis tombé sur Google Shopping et j'ai été vraiment étonné de je ne sais pas si on peut dire la qualité du produit, mais en tout cas de la facilité d'utilisation du produit. Il est vraiment très, très intuitif. On peut créer des listes un petit peu à la façon d'Amazon. On peut les partager si jamais on veut faire sa liste de courses ou de Noël et puis l'envoyer à ses amis, on ne sait jamais, ou pour son anniversaire. Et puis, on peut comment filtrer ses recherches en fonction de plein de choses. Donc j'ai fait un test, je vous ai mis un lien sur une liste shopping Chromebook. Alors c'est pas ce que je veux, hein, c'est juste une liste. Hein. On peut choisir le prix, une fourchette de prix allant de 300 € jusqu'à autant que vous voulez. On peut choisir la marque, le constructeur. On peut choisir la capacité mémoire, les ressources système. Bref, on peut choisir beaucoup de choses, de paramètres. Et puis nous sort un listing énorme. Et quand on voit ce listing, on clique sur celui qui nous paraît être intéressant, donc c'est un lien cliquable, et là ça ouvre une carte qui explique à peu près tout, les caractéristiques rapidement, et aussi où on peut le trouver et à quel prix. Et ce que j'ai bien aimé, peut-être que c'est pas très intéressant, je sais pas, c'est vous qui allez me le dire, c'est qu'en fait Google référence tous les avis qui sont sur le net, en fait, sur le produit. Donc, par exemple, là, j'ai pris un produit, je suis à 89% de commentaires positifs sur 274 notes. Et il nous dit, je peux l'acheter à la Fnac, à Darty, et ainsi de suite. Donc, je sais que sur Amazon, il faut pas trop se fier aux commentaires parce qu'en fait, ils sont plutôt, la plupart du temps, faux.
Ouais, ou acheter, ou... Ouais, je sais pas s'ils sont faux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux autour des commentaires, donc des fois, c'est un peu à prendre avec des pincettes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires faux qui sont glissés, parce que, mine de rien, entre un produit qui a 4 étoiles et un produit qui a 4,5 étoiles, il y a quand même une grosse différence en termes d'achat et de performance. Donc, les vendeurs ont tout intérêt à avoir des bons commentaires. Donc, c'est vrai que des fois, il y a un peu de triche, ouais.
Sont un petit peu pipés les résultats. Et bon, là, on a accès à tout. On voit vraiment une fiche complète. Alors après, ça pourrait être encore plus joli. Mais c'est vraiment très, très sympa. Moi, j'ai été surpris. Et du coup, j'étais tellement surpris que j'ai acheté ma tasse mug avec le logo MicroBook dessus. Hein.
Parfait.
Je me suis fait faire. Ils m'ont bien eu, Google. Merci. Merci de m'avoir délesté de quelques centaines d'euros. voilà. c'est pas Amazon, c'est l'autre. C'est Google.
Il est cher, le mug.
Ouais, non, mais j'en ai acheté... j'en ai pas acheté qu'un. Enfin, tu t'imagines.
Tu t'es fait arnaquer, Nico. Je sais pas comment te le dire, mais...
J'en ai acheté 10.
D'accord.
Il y en a un pour toi, Thomas. Tiens, je t'enverrai... je t'en ai fait faire un.
Ah, ça fait plaisir.
Et puis, je vais en mettre un en jeu. Tiens, ça peut être cool. Si vous voulez votre mug, microbook.fr, alors c'est pas le CKB Show, c'est microbook.fr, il vous attend. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour l'avoir? Je sais pas, j'ai même pas pensé à ça.
On va y réfléchir.
On y réfléchit, puis je mettrai ça dans les descriptions de l'article. Je vous en enverrai un, j'en ai déjà donné à plein de monde, il m'en reste plus beaucoup. Vous avez vos mugs qui vous attendent pour déguster votre café ou votre thé.
Super.
Enfin voilà, tout ça pour dire que je me suis fait avoir par Google Shopping parce qu'il était plutôt bien fait. Enfin voilà.
Et entre-temps, moi je suis allé sur Google Express, donc du coup qui a été, c'est plus Google Shopping Express, ça s'appelle Google Express. En fait, c'est fou, ça ressemble beaucoup à du Amazon, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir l'inventaire de Google, enfin au lieu d'avoir Google qui stocke l'inventaire, c'est tout un tas de magasins en fait qui ont mis leur inventaire sur Google Express. Et donc, du coup, vous pouvez acheter, par exemple, chez Best Buy. On n'arrête pas de parler de Best Buy, mais Best Buy, c'est l'équivalent de boulanger, en fait, ici. Vous pouvez acheter chez Best Buy par l'intermédiaire de Google Express, et c'est Google Express qui va vous le livrer à la maison. Donc, il y a une personne qui va aller, en gros, qui va aller chercher votre commande au magasin Best Buy et qui va vous l'amener jusque chez vous. Donc, ça existe encore. Je ne l'ai pas utilisé récemment, mais ça existe toujours. Voilà, fin de la parenthèse.
Je vais aller dessus. On me dit simplement que je peux pas me faire livrer en France, mais oui, ça apparemment, ça marche encore. Bien, ouais. Parfait. Continuons avec l'argent qui nous vole Google, puisqu'il m'a piqué une centaine d'euros. ils se sont fait cette fois choper un petit peu au niveau de la Commission européenne, je crois, dans mes souvenirs. Ils viennent de se prendre une belle petite amende pour abus de position dominante, je crois, encore une fois, au sujet, tu sais... tu l'as lu, tu sais à quel sujet ils se sont fait avoir cette fois?
C'est au sujet de AdSense, c'est ça?
C'est ça, c'est AdSense qui fait que Google se prend une belle petite amende. Alors, on va pas dire que c'est une amende record, ils ont fait mieux quand même, ils me déçoivent un peu. C'est 1,49 milliard d'euros, une broutille, ça fait beaucoup de mugs quand même. Et pour abus de position dominante sur AdSense, donc c'est... comment dire? Encore. Alors, je voulais en parler parce que encore une fois, je trouve ça qui trichent, qu'ils abusent trop de leur position. Je suis d'accord. une amende parce qu'ils ont créé un marché, développé un marché tellement puissant que bah ils sont puissants. C'est dommage. Je sais pas si tu as lu le lien que j'ai mis dans la ouais. description.
Ouais.
Je sais pas ce que t'en penses toi. Est-ce que c'est normal que Google prenne une amende aussi grosse ou enfin peu importe une amende pour l'usage de AdSense, le fait d'avoir des pratiques abusives sur la publicité en ligne ou encore a priori ils ont écrasé la concurrence. Est-ce que ça te paraît normal? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'est encore une fois l'Union européenne qui a envie de taper du poing puis de dire nous les GAFAM on les aime pas trop?
Ouais, c'est un peu c'est un peu tout en même temps en fait. C'est une bonne question. Je pense que c'est presque. Faudrait qu'on essaie de trouver un angle sur ces questions-là et faire presque un épisode hors série en fait autour de ces questions, parce que ça mériterait presque une émission, une conversation entière. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire des retours. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs forces qui rentrent en ligne de compte. Comme tu dis, alors les GAFA, d'ailleurs au passage, GAFA, c'est vraiment un terme qu'on utilise en Europe et en France en particulier. Tu vois, aux États-Unis, ça a pas tellement de sens en fait de les regrouper, de regrouper tous ces acteurs derrière le même nom, derrière le même sigle. Parce qu'en fait, vu d'ici, bah, c'est des géants de la tech, mais ils ont quand même des approches et des visions assez différentes. Alors que en France ou en Europe, de façon générale, il y a quand même un dénominateur commun, c'est entre guillemets l'évasion fiscale et le fait que, je dis évasion fiscale, c'est pas forcément le bon terme, mais le fait qu'on soit pas encore très fiscal. Bien, comment ?
Fiscal.
Fiscal. J'ai dit quoi ?
T'as dit évasion fiscale et moi je dis optimisation fiscale.
Ah, optimisation fiscale, pardon. Ouais. Mais en fait, c'est de l'optimisation fiscale, mais c'est juste que. Dans une certaine mesure, ils optimisent, mais c'est aussi que les systèmes de taxation tels qu'on a aujourd'hui, au niveau européen, mais même à travers le monde, sont pas très bien conçus en fait pour supporter, pour taxer correctement ce genre d'acteurs. Et il s'avère que ces acteurs-là sont aujourd'hui des sociétés qui font énormément, énormément d'argent en fait. Donc du coup, déjà, je pense qu'il y a on part pas sur une très très bonne, on part pas d'un bon pied en fait avec les géants de la tech en Europe, parce que bah par définition c'est des gens qui font beaucoup d'argent en Europe mais qui sont pas taxés à hauteur de l'argent qu'ils font ou en tout cas légalement ils le sont, mais en pratique c'est vrai que ils devraient payer beaucoup plus de taxes qu'ils ne le font. Et puis après au-delà de ça, bah ces géants de la tech deviennent de plus en plus grands et prennent de plus en plus de place dans l'économie. Et du coup, bah, de temps à autre, c'est vrai qu'il y a probablement des procès en abus de position dominante qui sont tout à fait valables. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, je suis désolé, c'est une super longue explication, mais ce que j'essaie de dire en fait ici, c'est que bah, c'est un peu de la faute de personne en fait. Et le système est mal foutu. Et de toute façon, les GAFA sont organisés et fonctionnent de telle façon que ils seront toujours dans une position où on aura l'impression, tant que le système de taxation change pas, ils seront toujours dans une position où on a l'impression que bah ils font beaucoup d'argent et ils sont pas taxés suffisamment, et en même temps ils prennent de plus en plus de place dans l'économie, et donc du coup bah ils prêtent le flanc à des attaques en position dominante. Donc c'est un peu ma façon de voir les choses, c'est faut changer le système de taxation, faut aussi réfléchir à je pense que il y a de plus en plus de l'élection américaine, la campagne pour l'élection présidentielle américaine vient de démarrer 2 ans à l'avance ici, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats en particulier à gauche, donc qui vaudraient au centre à peu près en France, qui disent que il serait peut-être temps de considérer un découpage en petits morceaux en fait des grosses sociétés tech, parce que elles prennent de plus en plus de place dans l'économie. Et ça aussi c'est pareil, ça mériterait presque une conversation à part entière, parce que les découper en morceaux ça résout des problèmes mais ça en crée de nouveaux aussi. Donc voilà, bref, tout ça pour dire je suis désolé Nico, tu voulais une réponse rapide, tout ça pour dire, t'es toujours là d'ailleurs?
Ouais, je suis là, j'écoute.
Ok.
Je suis passionné.
Je veux pas t'endormir. Mais tout ça pour dire que, je pense qu'en fait, c'est pas la dernière fois que ça arrive. Ça va continuer à se produire. Je pense que Google et Apple et Amazon vont continuer à se prendre des amendes. Mais que malgré tout, sur le long terme, va peut-être falloir commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on a envie de faire évoluer la législation en termes d'impôts et de taxation. Et je sais qu'il y avait une initiative européenne qui est un peu tombée à l'eau, et donc du coup la France a pris l'initiative et a créé sa propre loi là il y a quelques jours, quelques semaines. Donc voilà. À mon avis, c'est le début de ce genre de. On en est qu'au début en fait. Je pense que ça va vraiment continuer à se développer ces sujets de taxation des géants numériques américains. Voilà, j'ai fini.
C'est bien. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est très compliqué, c'est très long ton explication. Mais aussi, c'est très compliqué. Tout a été créé pour qu'ils puissent faire de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale, comme tu le disais. C'est le système qui est fait comme ça. Donc, si on le change pas forcément, c'est pas en poussant un petit peu en avant que ça va changer grand chose. Il faut tout changer d'un coup. Et moi, je serais plus pour qu'on écoute ces entreprises, qu'on travaille avec eux plutôt que les taxer, qu'on leur demande ce qu'ils ont besoin et comment ils peuvent nous apporter des choses aussi. Mmh. Toi, un truc intelligent, gagnant-gagnant, c'est pourquoi là, en fait, on tape du poing en disant, ouais, en fait, on a fait des conneries, vous avez profité de nos conneries pour faire beaucoup d'argent, donc on va vous en reprendre un petit peu, hein, c'est pas bien, ouais. Comme si les politiciens étaient plus blancs qu'eux. Plutôt que de faire ça, moi, je serais plus d'avis d'aller voir ces entreprises et en leur disant, bah voilà, ouais, certes, si vous faites encore des conneries, on va vous taxer, mais cette fois, ce sera pas un ou deux milliards, mais beaucoup plus que ça. C'est à hauteur de 3 ou 4% du chiffre d'affaires mondial, je crois.
Ouais.
Alors du coup, si on veut pas en arriver, est-ce qu'on peut pas travailler intelligemment ensemble? Est-ce qu'on peut pas trouver une solution pour que tout aille bien?
Ouais.
Si on pouvait aller plutôt que chacun se connaît, puis ben, il va regarder ce que fait l'Union européenne, ils vont dire, oh, il y a une faille dans leur loi, là, on va s'engouffrer dedans et on va pouvoir gagner encore plus de millions. Je sais que c'est un petit blague, mais c'est une idée,
je pense. Je suis désolé, le son est. Je pense qu'on comprend ce que tu veux dire, mais le son est un peu robotique.
Mais c'est ma voix Alexa.
C'est ça. Mais ouais. Et puis bon, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que ce que j'ai oublié de dire malgré tout, malgré le fait d'avoir beaucoup parlé, c'est que les États européens sont pas tous d'accord non plus. Hein. D'un côté, l'Irlande est très contente d'avoir l'essentiel des revenus fiscaux, enfin des dépenses fiscales payées par les géants de la tech américains sur son territoire. Bref. Enfin, c'est une longue histoire tout ça, mais c'est vrai que, à mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on parle d'une amende de Google par la Commission européenne.
En plus, ils ont fait appel encore une fois, donc ils sont pas prêts de les payer, nos amendes.
Ouais.
Donc voilà. Passons à un autre sujet un peu plus gay. Est-ce que tu utilises Google Maps au quotidien, Thomas?
Ouais, je l'utilise. Oui, je l'utilise au quotidien. Ouais, absolument.
Ouais. Moi aussi, c'est plus que tu me poses la question, moi aussi, je l'utilise beaucoup, je suis, comment on appelle ça, les mecs qui mettent des étoiles en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien,
ambassadeur, non, ouais, guide local, ou ouais.
Guide niveau 7, je crois, maintenant, il me donne plein de trucs, wow. Voilà, c'est génial, bon, j'aime critiquer. Je mets des mauvaises étoiles à tout le monde, comme ça, voilà, c'est réglé. Mais on voit que Google Maps devient quelque chose de plus en plus important chez Google. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. On va avoir apparaître, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais les fonctions que y a un autre système qui s'appelait Waze, enfin qui existe toujours, qui a été racheté par Google, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et Google Maps est en train de récupérer petit à petit les fonctions de Waze, typiquement le détecteur de zones dangereuses. Ouais, les radars, ouais, c'est ça, qui va apparaître, la vitesse à laquelle tu roules aussi, qui va apparaître sur l'application Google Maps. Et puis, dernièrement, un truc qui m'a vraiment étonné, j'ajoute d'événements sur Google Maps. En gros, je veux faire mon arrière, à mon emplacement, je fais, et je vous invite tous mes amis.
Alors attends, je vais te demander de répéter la dernière phrase, parce que là, ça a coupé un petit peu, tu disais.
Donc, Google Maps vient changer bien des événements. Donc oui, ce sera un événement. Je sais pas en fait si c'est des événements publics ou privés.
Alors moi, je vois événements publics là sur la page d'aide.
Ah, c'est cool.
Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, tu diffuses de façon publique ton anniversaire et donc du coup, t'as tous les gens qui sont dans le coin qui utilisent Google Maps qui vont le voir sur la carte et qui vont se pointer à ton anniversaire.
C'est pas génial.
Si t'es en déficit d'amis, c'est un bon moyen de rencontrer des gens.
Voilà. Alors, c'est peut-être plus pour les entreprises, tu me diras.
Je pense que c'est plutôt ça, ouais, ou les événements locaux, genre des foires quelconques ou, je sais pas, des événements sportifs ou ce genre de choses, peut-être.
Et si je veux que ma maison, ça devienne le plus gros bazar de tous les temps, j'ai juste à faire ça.
Ou tu peux faire mieux, si t'aimes pas trop ton voisin et que t'as envie de te venger.
t'invites tout le monde chez lui.
Voilà, tu mets distribution d'iPad gratuit, non, distribution de Chromebook ouais. gratuit et tu mets l'adresse de ton voisin.
Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool.
Et putain, tu filmes.
Attends, tu filmes, tu mets 2-3 drones au-dessus pour bien voir. Ouais, voilà. Donc tu vois, tu as trouvé tout de suite que c'était génial, quoi.
C'est génial, ouais. C'est génial. Donc événement public. Non, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et comme tu dis, donc Waze a été racheté, entreprise d'origine israélienne, qui a été racheté par Google il y a plusieurs années maintenant, qui globalement migre fonction après fonction dans Google Maps, mais Waze est toujours une application que vous pouvez utiliser, sans forcément ouais. savoir que c'est Google d'ailleurs. Donc voilà.
Mais oui, mais moi j'aime bien Google Maps, je trouve très très sympa. Après, quand je veux l'utiliser uniquement en route, tu vois, je sais où je vais, donc je vais pas forcément expliquer que je vais pas indiquer forcément mon adresse à Google Maps, tu vois. Alors qu'avec ouais. que sur Waze, tu te cliques, il se met en route et puis tu roules et puis s'il y a un radar, il te prévient, s'il y a un incident, il te prévient.
Ouais.
T'as pas besoin d'indiquer un lieu de destination, alors que sur Google Maps, pour l'instant, t'as besoin d'indiquer ton lieu de destination. Et c'est encore dommage. Donc il y a encore les deux ont encore des beaux jours de chaque côté, mais je pense qu'au final, Google Maps va finir par englober complètement Waze et faire disparaître Waze. Enfin, j'imagine en tout cas.
Ouais. On enchaîne, on parle de Microsoft.
Ah bah tiens, ça faisait super longtemps.
Ça faisait longtemps.
On n'en a jamais parlé. Ouais.
Donc on vous l'avait annoncé, on vous l'avait annoncé il y a quelque temps. Donc Microsoft en fait et Microsoft Edge en particulier, qui est le nouveau navigateur, enfin le nouveau, pas si nouveau que ça, mais le navigateur de Microsoft, en fait va abandonner son moteur propriétaire et va utiliser Chromium, qui est le même moteur qui est à l'origine de Chrome, et donc va utiliser Chromium pour fonctionner en fait. Donc du coup, Edge, le navigateur de Microsoft, devient une version différente de Chrome, de la même façon que Brave, je crois, on a une autre. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y a très très peu de moteurs en fait de navigateurs aujourd'hui. En gros, il y a Opera a abandonné le sien aussi pour utiliser Chromium, il me semble. Donc en gros, il reste plus que Firefox et Mozilla et Chromium en fait. C'est les deux moteurs de navigateur qui existent.
C'est ça. Mais Safari, non?
Et Safari, ouais. Ouais, mais ça,
je sais pas.
C'est ça.
Ce serait le comble qu'ils utilisent. Bah, mais pourquoi pas, hein.
Ouais, après, enfin, tu te dis que oui, je pense qu'ils sont pas complètement prêts à abandonner, j'imagine. Mais c'est vrai que ça demande du temps, ça demande des ressources. Et c'est vrai que c'est compliqué hein, de maintenir et de faire évoluer un moteur de navigateur. Donc peut-être qu'un jour, Apple va se dire « bah non, on a envie d'investir nos ressources ailleurs ». Mais en même temps, ils ont tellement de ressources que je pense que c'est pas forcément un problème pour eux d'avoir des ingénieurs qui continuent à faire évoluer Safari et sur son moteur propriétaire.
Moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée que Microsoft passe à autre chose que son, enfin, qu'ils essayent de se battre sur quelque chose qui marche pas, parce qu'ils ont perdu le marché, des navigateurs. Donc là, ils vont se concentrer sur autre chose, peut-être donner une autre expérience utilisateur, même si c'est basé sur Chromium, ils vont donner une autre expérience. Après, même si c'est la même base que sur Chrome, clairement, ils ont décidé d'enlever tout ce qui était googlisant. Hein. Ils vont virer l'accès au Google Play, l'accès au cloud messaging qui est inclus dans Chrome OS. Ils vont enlever Chrome OS Device et compagnie. Enfin bref, ils vont enlever tout ce qui appartient à Google. Hein.
Ouais, absolument. C'est on parle de moteur de navigateur, c'est un peu comme le moteur d'une voiture en fait. Les fabricants c'est pas la première fois je crois que j'utilise l'analogie des voitures.
Ouais, je crois que t'en as acheté une fois et t'as pas arrêté de nous en parler pendant tout l'épisode.
Donc je reprends mon analogie à la voiture, c'est ça le moteur est le même que sur Chrome et comme je disais Brave aussi, enfin tout un tas de navigateurs alternatifs et donc a priori aussi Opera. Utilise le même moteur, mais après ça veut pas dire que la voiture, l'intérieur et la carrosserie est la même. Donc c'est un peu ça, c'est un peu la même chose avec Edge. Il y a tout un tas de services qui sont rajoutés par-dessus le moteur Et du coup, ces choses-là seront propres à Microsoft et probablement très intégrées et très liées à Windows. Mais malgré tout, comment dire, la logique interne, les entrailles, entre guillemets, c'est Chromium.
Ouais. Ils ont Edge, donc Microsoft a même créé un store pour les extensions, comme peut le faire Google. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, les extensions Chrome sont déjà rétro-compatibles avec Edge. Donc en gros, ils en enlèvent, mais pas tant que ça, puisqu'on va pouvoir accéder à plein de choses. Et c'est peut-être la meilleure solution pour. Enfin, du coup, on va avoir un Edge qui va ressembler beaucoup à Chrome. Enfin, c'est bizarre quand même.
Ouais, bah oui, enfin il y a tout un c'est un peu compliqué parce que d'un côté tu veux te différencier et tu veux quand même avoir une certaine valeur ajoutée par rapport à Chrome, mais en même temps vu que tu utilises Chromium, tu as quand même tout intérêt à bénéficier de l'écosystème qui existe déjà autour de Chrome. Donc il y a une espèce d'équilibre à trouver pour Microsoft qui doit pas être complètement évident entre on veut bénéficier de l'écosystème qui existe autour de Chrome, mais en même temps on veut aussi affirmer notre différence et pas être strictement comme une version bleue de Chrome, quoi. Donc voilà, à suivre un petit peu. Je t'avoue que j'ai pas de machine Windows, donc je vais pas pouvoir l'utiliser. Enfin, il me semble que Edge est disponible que sur Windows. Je pense pas qu'il supporte Linux.
Tu sais, Nico? Je sais pas du tout. J'ai pas essayé. J'essaierai, tu vois. Je vais voir. Ils ont pas une application Android Edge? Ils avaient une application. Attends, je vais essayer.
Si t'as raison, je crois qu'ils ont un moteur Android. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que vous pouvez l'installer sur votre Chromebook si vous avez Android sur votre Chromebook.
Il y a effectivement un Microsoft Edge disponible, mais est-ce que c'est la nouvelle version ou est-ce que c'est encore l'ancienne?
Ouais, c'est une bonne question. J'avoue que c'est peut-être différent. Ouais. Peut-être que pour le coup, ils utilisent leur moteur original pour les versions mobiles. Ça existe sur iOS aussi.
Dernière mise à jour, 9 avril 2019.
Pourquoi tu dis pas.
Genre pour l'application Android.
D'accord. Ouais.
Je suis bêta testeur Android dessus, apparemment. À un moment, j'ai dû m'inscrire. Je la télécharge et je regarde. Ça va m'amuser. Tiens, elle est lancée.
Okay.
Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Continuons dans les bonnes nouvelles, puisque on a entendu parler. On revient chez Google, hein, quand même, parce qu'on va pas parler tout le temps de nos concurrents. On revient chez Google et on a entendu parler d'un. Alors, tu as entendu parler, je pense, d'un Nest Hub Max. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Ouais, alors c'est une rumeur, mais a priori, Google a. Il y a pas mal de leaks aujourd'hui, hein, dans les nouvelles dont on va vous parler. Google a leaké, sans le vouloir, un appareil qui s'appellerait le Google Hub, le Google Nest Hub. Et du coup, l'idée, ce serait d'avoir quelque chose qui serait a priori entre le Google. Attends, est-ce que je le dis correctement? Non, c'est le Nest Hub Max, pardon. Quelque chose qui serait entre le Google Home Hub, donc le Google Home avec l'écran qui est disponible, qui est pas disponible encore en France, mais qui est disponible ici. Et quelque chose qui aurait une caméra et qui serait intégrée à Nest. Donc Nest, c'est comment dire, la suite de domotique et de je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, de domotique.
Ouais, c'est la domotique, la surveillance interne
et
avec
voilà,
les
c'est
caméras,
ça.
Les
de sécurité,
de sécurité, présence et compagnie, voilà. Chaleur.
Donc a priori, étant donné le timing, je pense qu'il y a de grandes chances pour que ce soit présenté à Google I/O. Mais donc voilà, donc a priori, un nouvel appareil de la famille Hub devrait être annoncé rapidement avec une caméra et probablement plus d'intégration avec Nest, qui est donc la suite de sécurité, d'alarme, comment est-ce qu'on dit, alarme domestique de Google.
C'est amusant, ça me fait penser à une news qu'on avait, je crois, abordée, qui indiquait que dans les thermostats Nest, en fait, ils avaient activé le OK Google, l'assistant personnel, et que personne ne savait qu'il y avait un micro là-dedans. Donc ça me fait rire, finalement. Est-ce que c'était pas déjà prévu depuis très longtemps et ils attendaient que le marché soit un peu plus mature pour déployer ça?
Ouais, c'est très probable, finalement. T'as raison. Je pense qu'il y a des chances pour que l'écosystème Nest, à l'intérieur de l'écosystème Google, se développe et qu'en gros, Nest et Google Home fusionnent dans le futur. Je pense que du point de vue marketing et du point de vue produit, c'est ce à quoi il faut s'attendre. En termes de technologie et d'interaction et tout ça. Je pense que ce sera globalement la même chose, mais à mon avis, la marque Google Home va probablement s'effacer au profit de Nest. C'est mon pari, en tout cas.
Tu penses que Nest va rester ?
Bah, je pense, ouais. Ouais, parce que c'est assez... le nom est bon, les produits sont déjà bien intégrés, donc je pense que il y a de grandes chances pour que ça se passe comme ça. Après, bon, Google, c'est une boîte compliquée avec beaucoup de dynamique en jeu, donc je sais pas trop. Hein, peut-être qu'il y a probablement des gens qui poussent dans cette direction-là. Après, tu dois aussi y avoir des gens qui poussent dans la direction opposée. Donc on verra qui est-ce qui gagnera. Mais ça aurait, à mon avis, pas mal de sens d'avoir cette marque Nest qui désigne tous les appareils destinés à la maison pour Google.
Ouais, non, puis c'est pas bête, hein, puisque ça évite de parler de Google et ça fait moins peur aux gens qui veulent pas prendre Google.
Ouais, c'est possible.
Par exemple,
c'est vrai.
Ça peut être aussi une solution pour continuer à gagner des parts de marché et rentrer chez les fanboys et qui ne veulent pas de produits Google.
Ouais. On parle de Google Play Protect.
Ouais, on va continuer chez Google. Tu connais Google Play Protect, c'est en gros le truc, l'espèce d'antivirus intégré au Google Play.
Ouais.
Je pense que tu en as entendu parler, on avait déjà parlé il y a quelques temps.
Ouais.
Google l'a intégré à tous les produits, alors que ça soit sur Chrome OS, Android, qu'est-ce qu'ils ont d'autre d'ailleurs, c'est tout, Wear OS peut-être. Ils l'ont intégré donc à leur store et... grâce à ce logiciel, cet algorithme, je sais pas exactement ce que c'est, hein, je suis pas très très fort là-dedans, mais ils ont réussi à faire baisser toutes les attaques, tous les malwares, tous les spyware, tous les virus qui étaient dans les applications Google, enfin qui étaient téléchargeables. Et donc ils sont contents, ils nous le disent, ils nous ont fait un beau tableau pour nous expliquer que Google Play Protect était le produit qui protégeait le mieux les utilisateurs de leur écosystème, et ça a fait baisser donc de 20% les malwares présents sur les produits de Google. Donc c'est vraiment génial. Donc encore une fois, là où ils vont protéger donc tout ce que tu vas télécharger sur leur store, donc que ça soit le Play Store qui est la grosse partie, hein, mais également tout ce qui est sur ton téléphone, ton smartphone, ta tablette ou ton Chromebook, parce qu'ils vont même aller vérifier les applications que tu aurais téléchargées un petit peu à côté via des stores un petit peu alternatifs. Donc si tu télécharges un fichier APK, eh ben il va aller vérifier si ce fichier là est pas compromis. Donc Google Play Protect ne protège pas uniquement le store, mais protège ton téléphone et tout l'écosystème que tu peux avoir autour. Tu l'utilises peut-être sans le savoir, Thomas.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, en fait. C'est tout le monde l'utilise sans le savoir, et c'est un peu compliqué en fait pour Google, parce que d'un côté je pense qu'ils ont un peu raté le coche en termes de communication sur ces questions là Google Play était, en gros, la force de Apple par rapport à Android, c'était justement d'avoir cette vérification manuelle de toutes les applications qui sont uploadées sur le store. C'est vrai que Google, à l'opposé, était un peu, en gros, venez comme vous êtes et laissez tout et n'importe quoi être uploadé sur Google Play et donc téléchargé après par les utilisateurs. En renforçant un petit peu ce contrôle, je pense qu'on va voir de moins en moins d'histoires. Je sais pas si tu te rappelles de l'histoire des applications d'optimisation de batterie qui étaient en fait des virus que t'installais sur ton téléphone, pour le dire rapidement. Tu téléchargeais en pensant installer, ou tu pensais installer un antivirus et en fait t'installais une application qui faisait rien du tout, juste afficher de la pub. Donc toutes ces cette mauvaise presse entre guillemets au cours des deux ou trois dernières années qui a un peu affecté Google Play et l'image que Google Play a, ils sont en train d'essayer de se refaire un petit peu se refaire la cerise, comme on dit, et en lançant cette initiative de Google Play Protect. Mais je pense qu'il faut qu'ils communiquent un peu mieux autour de ça, parce que c'est vrai que t'installes une application, on te parle de Google Play Protect, tu sais pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc je pense que, à mon avis, on va les voir communiquer un peu mieux autour de ces questions-là dans les semaines à venir. Ils le font déjà beaucoup depuis un an et demi, mais je pense qu'on va encore en entendre parler à Google I.O., par exemple.
Ouais, alors pour ceux qui veulent voir si ça fonctionne bien, vous l'avez directement dans votre sur un Chromebook en fait, ou sur Android. Vous ouvrez le Play Store et vous avez le menu hamburger en haut à gauche, vous cliquez dessus et puis vous retrouvez le lien Play Protect en bas dans le menu. Mmh. Et là, vous pouvez lancer, moi par exemple sur mon smartphone, là il est en train de me dire, il l'a analysé, a priori, quand, je sais pas, et il me dit, oh bon, c'est bon, tout va bien. Donc mes 280 applications de télécharger sur mon téléphone. Il me l'a analysé hier soir à 20h22. Donc clairement, je lui ai pas demandé, il l'a fait tout seul et il a analysé les 280 applications que j'ai sur mon smartphone et il me dit que je n'ai aucun problème. Donc vous pouvez le relancer, là je viens de lancer à nouveau le test et j'ai dû j'ai dû désinstaller deux applications parce que j'en ai plus que 278. Mais voilà, donc on peut le lancer si on a peur d'avoir installé un truc un peu bizarre, mais sinon ça se fait tout seul.
Ouais.
Donc voilà. Voilà. C'est très très bien, on le verra un peu plus tard. On continue sur Chrome OS et Chromebook parce qu'il y a des évolutions. On avance beaucoup et tous les jours, enfin à chaque fois qu'on vous parle, à chaque fois qu'on a un rendez-vous ensemble, Thomas, je te parle de Crostini, toujours ces fameux portages de Linux sur Chrome OS. Et tout le temps, tous les jours, il y a une nouveauté qui arrive et c'est vraiment bluffant parce que cette fois, la nouvelle nouveauté, encore une, c'est redondant ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. La nouvelle nouveauté, c'est le support des VPN Android sur le projet Crostini. Donc je m'explique, un VPN, réseau privé virtuel, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'accéder à des sites internet qui sont pas forcément accessibles dans le pays où on est, alors principalement, normalement pour la presse ou de choses comme ça, tu veux Facebook alors que tu habites en Chine, enfin voilà, ou tu veux regarder Netflix américain mais tu es en France et tu n'as pas le droit de regarder les séries. Donc ce VPN, il y en a des tonnes qui pullulent sur internet, sur Android, et si tu en as choisi un aujourd'hui sur Android que tu veux installer sur ton Chromebook, tu peux l'utiliser sur Chrome, le navigateur Chrome de Chrome OS, tu peux l'utiliser sur les applications Android, mais tu ne pouvais pas les utiliser sur le conteneur Crostini. Ce qui est un petit peu embêtant parce que y a des applications qui sont plutôt utiles sur Linux et qui auraient besoin d'un VPN, ni plus ni moins que, par exemple, moi j'utilise un lecteur de mail, je lis mes mails avec un logiciel. Un client mail, merci. Qui s'appelle Mailspring. Et quand je lance, je suis sur Linux et je n'avais pas de VPN. Et aujourd'hui, enfin il y a quelques temps déjà, ça y est, c'est enfin possible. On peut utiliser notre VPN directement sur Crostini. Donc je peux consulter mes mails sur un réseau Wi-Fi public sans avoir peur de me faire pirater aussi mes données ou qu'on regarde ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, le VPN? Et est-ce que... Bah oui, je crois que tu l'utilises d'ailleurs, on en a parlé juste au début.
Ouais, absolument, j'utilise un VPN. Mais je t'avoue que je suis pas forcément certain. Je suis en train de réfléchir rapidement quelles applications Linux j'utilise sur mon Chromebook qui pourraient bénéficier d'un VPN. Il n'y a pas tellement d'exemples d'applications Linux que j'utilise sur mon Chromebook qui pourraient bénéficier d'un VPN. Mais oui, c'est une bonne chose en fait. C'est un peu une brique, manquante en fait. Donc il était temps qu'il mette ça à jour. Ouais.
Bah, typiquement, tu pourrais avoir besoin d'installer Firefox parce que tu aimes Firefox. Et donc, sur Linux, tu peux installer Firefox. Donc, sur ton Chromebook, tu peux l'installer. Donc, ta navigation n'était pas privée à ce moment-là.
Ouais, exactement.
Tu vois, par exemple, moi, ouais. Je parle de mes mails parce que j'utilise un client mail axé sur Linux. Mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Si tu as envie de regarder Netflix sur Firefox via Linux, bon, tu te compliques un peu la tâche hein, quand même. Il y a quand même plus simple. Mais pourquoi pas? Là, tu pourras protéger et tu pourras dire que tu es aux États-Unis alors que tu es à Paris ou inversement.
Ouais,
ça, tu pourras regarder plus belle la vie de ton domicile américain.
Et puis, on parle des applications personnelles, parce que c'est vrai que les VPN rentrent de plus en plus dans le cercle personnel. Comme tu l'as dit, hein, quand tu es sur un réseau ouvert, par exemple, les réseaux, il n'y a pas de mot de passe. Faut savoir que tout ce qui transite en HTTP non sécurisé peut être accessible et visible par des personnes qui ont envie de regarder. Donc on a vraiment intérêt à utiliser un VPN. Mais en général, même sur n'importe quel Wi-Fi public, je pense que c'est quand même conseillé d'utiliser un VPN. Mais avant ces usages-là, il y avait aussi des usages professionnels aussi, où on a certains serveurs ou certaines données qui ne sont accessibles que via VPN en utilisant le VPN de l'entreprise. Donc du coup, en utilisant un Chromebook, si tant est que votre entreprise vous permet de connecter vos appareils personnels au VPN de l'entreprise, vous pouvez maintenant utiliser des applications Linux sur Chromebook via VPN.
Ça, c'est vraiment une bonne chose. Voilà. On continue dans les évolutions, mais on part de Linux. Google a enfin vu que sur Chrome OS, il y avait 3 systèmes d'exploitation différents. Il y a Android, il y a Linux et il y a Chrome OS. Et jusqu'à peu, hein, pour accéder aux différentes applications que tu avais téléchargées et installées sur ton appareil, eh ben il fallait, tu voulais télécharger, désinstaller une application ou voir simplement l'extension que tu voulais, il fallait aller sur vraiment une partie de paramètres de Chrome OS pour voir les applications Chrome OS, fallait aller sur Android, sur le Play Store pour voir les applications Android. C'était assez compliqué, c'était un petit peu l'anarchie, c'était vraiment vraiment n'importe quoi. Et ben les dernières nouveautés sont vraiment très intéressantes puisqu'ils viennent de déployer une page qui est pour l'instant encore en phase de test, qui permet de regrouper l'ensemble des gestions des applications sur une seule page. Donc tu vois maintenant les applications Android, tu vois maintenant les applications Linux et je te donne en mille les applications Chrome OS. Tu vas pouvoir les désactiver, les supprimer. Bah c'est tout déjà directement depuis cette page de cette page web. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. La question était presque mais pourquoi pas l'avoir fait avant. Je sais pas si tu l'as utilisé. Moi je l'utilise depuis quelques jours. Je la trouve vraiment très très bien.
Non ouais je ne connaissais pas. Donc c'est chrome://apps directement ouais. dans votre navigateur Chrome pour Chrome OS. Donc ouais c'est assez intéressant. C'est ouais comme tu dis mais ça fait un peu on a l'impression qu'ils ont un peu pensé à ça à la dernière minute, enfin ça fait un peu bricolage c'est quand ça. Même
ouais pour l'instant c'est un petit peu tout est les uns derrière les autres ouais. Voilà c'est pas forcément très très joli mais ça veut dire que c'est fait, maintenant faut redesigner tout ça. Bon je pense pas que le design soit le plus complexe à faire. Donc ouais. Du coup, je m'attends à voir quelque chose de sympa. Mais c'est vraiment bien fait. Hein. Tu peux quand tu ouvres une application, tu peux activer, désactiver les notifications. Tu peux activer, autoriser les accès à certaines fonctionnalités comme la localisation, ton micro, l'appareil photo. Mmh. Tu peux même épingler Tu peux même épingler l'icône de ton application sur l'étagère si tu le souhaites. Mmh. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Enfin, en soi, c'est plutôt bien fait. Après, c'est pas très joli. Je te l'accorde, mais c'est bien. Fait.
Ouais.
Donc une bonne nouvelle, encore une évolution assez intéressante.
Ouais, je te dis, ça fait un peu. On a l'impression qu'il y a une équipe qui s'est dit tiens, si on faisait ça. Moi je me dis que c'est presque. Je suis désolé, hein, je suis un peu esprit chagrin. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pas intégré ça directement, à ton comment est-ce qu'on appelle ça, le tiroir d'application. Le panneau en fait d'application
ouais, sur le sur lanceur Chrome d'application
ouais
ouais bah peut-être que ça va y venir hein, cette page là évolue d'ailleurs tiens petit aparté j'avais pas pensé à en parler Thomas, je suis désolé, je rajoute un truc à la dernière seconde mais je pense que tu vas être content, enfin toi tu t'en fous, tu l'as déjà depuis longtemps, Chrome OS 75 qui est arrivé il y a une petite semaine sur les Chromebooks, surtout les Chromebooks en version bêta, accède enfin à Google Assistant via le lanceur d'application.
Ouais.
Et je l'utilise hein, depuis une semaine. J'avais pas fait d'article, il va apparaître cette semaine parce que je voulais vraiment voir un petit peu si c'était utile ou pas. Je crois que toi tu l'as sur ton Pixelbook, hein, forcément.
Ouais.
Et la dernière fois qu'on en a parlé, tu m'as dit que tu t'en servais pas du tout. Et je voulais voir si ça avait changé de ton niveau. Est-ce que cette fois tu t'en sers ou t'as toujours pas trouvé l'utilité à ce truc-là?
Ben non, je me rappelle à l'époque, je t'avais donné l'argument suivant. En fait, il y a un Google Home en général à proximité. Il y a Google Assistant qui tourne sur mon téléphone. Donc c'est vrai que, en fait, j'ai pas forcément besoin d'avoir en plus Google Assistant sur mon ordinateur portable, enfin sur mon Chromebook en particulier. Et mais c'est vrai, je vois pas forcément, je sais pas dans quel contexte j'aurais besoin d'avoir Google Assistant sur mon ordinateur portable en fait, parce que j'aurais toujours mon téléphone à proximité. En général, je l'utilise à la maison, donc c'est vrai que c'est peut-être un usage aussi propre à l'usage que j'en ai. J'utilise souvent mon Chromebook à la maison, donc il y a aussi des Google Home à portée de voix. Donc voilà. Donc je dis pas que ça sert à rien, mais je dis juste que moi j'ai pas eu beaucoup l'occasion de l'utiliser parce que il y avait d'autres moyens pour moi d'accéder à Assistant. Mais à voir. Je vais réessayer. Je te promets que je vais réessayer. Je vais essayer de trouver un moyen de m'en servir.
Moi, je vais te donner mes cas d'usage. J'ai essayé et j'ai trouvé plusieurs choses pratiques, en fait. Alors déjà, je suis pas toujours à la maison quand j'utilise mon Chromebook. D'ailleurs, voilà, je me balade assez souvent. Et quand je suis dans un bar ou quand je suis dans un bureau, oui, je travaille dans un bar, ça arrive. Et bah, en fait, j'écris mes, je rédige mes articles ou mes comptes rendus de réunion, des choses comme ça. Donc, je les rédige directement sur mon Chromebook. Et il s'avère que très souvent, on m'a donné des chiffres parce qu'on parle très souvent chiffres, hein, comme tout le monde. On m'a donné des chiffres et puis il faut faire des additions. Alors, est-ce que tu sais faire de tête 842 fois 326? Alors, moi, non, hein, je suis peut-être mauvais, mais j'y arrive pas comme ça d'un coup. Donc, qu'est-ce que je fais? D'habitude, je décaine mon téléphone et je cherche ma calculatrice bêtement et puis je fais le calcul moi-même. Et ben là, ben grâce à ça, j'ai réussi en quelques secondes. Je lui fais OK Google, et là l'assistant s'ouvre. Je lui dis combien font ça plus ça, et hop, il me sort directement le résultat. Et je suis toujours en train de taper mon texte en fait. J'ai pas encore levé mes doigts de mon clavier. Alors c'est mon côté féminin. Je peux faire peut-être deux choses à la fois, mais et ça a été très intéressant pour moi à plusieurs reprises parce que d'habitude je perds beaucoup de temps, même dans un tableur où il faut faire des additions pour obtenir un chiffre. Alors avant je faisais un calcul égal le chiffre plus le chiffre pour avoir le résultat, quoi. C'est débile, mais ça m'évitait de sortir ma calculette. Bah là ça va beaucoup plus vite. Je vais plus loin dans les articles. Souvent bah, je cite des marques, des choses comme ça. J'ai souvent tendance à oublier de quel pays ils sont. Et puis j'ai envie de le rajouter dans l'article. Bah je lui dis pendant que je suis en train de taper, je fais au fait, OK Google, c'est quel pays Acer et de quel pays POF, puis il me sort le truc directement.
Taïwan.
Ah toi, ah c'est toi. Ouais d'accord. Non.
Tu vois, j'ai pas besoin d'assistant parce que je connais déjà les réponses.
Ok, ouais, non, mais super. Alors, j'ai pas. Il y a d'autres choses que Acer, Asus. Et... Non, mais il y a des petites
Non,
entreprises,
c'est
des petits
Taïwan tout
trucs.
le temps.
Ouais, non, mais c'est pas Taïwan tout le temps. Google, c'est pas Taïwan.
Ah non, Google, c'est pas Taïwan. Ah merde, ouais, t'as
Mais tu
raison, ça
vois,
marche pas en fait.
ça marche pas tout le temps, en fait. Mais voilà, donc des détails, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très rapide, plus rapide que ouvrir un autre onglet. Alors, avec les raccourcis clavier que j'utilise tout le temps, j'ouvre des onglets très rapidement, mais il fallait que je saisisse avec mon clavier. Tu me dirais, ouais, mais t'as juste à lancer ton téléphone. Tu dis la même chose et ton téléphone l'a le faire, mais ouais, mais mon téléphone en mode verrouillé, OK Google ne s'active pas.
Ouais.
Parce que j'ai fait le choix de ne pas l'activer, sinon il s'activerait tout le temps. Donc moi j'ai des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Ou quand je veux trouver une illustration, je lui dis OK Google, trouve-moi l'illustration de je sais pas quoi, le Chromebook Acer machin. Ça me le trouve tout de suite.
C'est marrant. Donc toi, tu l'utilises comme assistant dans le contexte de ce que tu es en train de faire, en fait. Ce qui est un peu la
Ouais, à
définition
l'instant T.
d'assistant, mais c'est vrai. Ouais, c'est bah tu vois. Écoute, en fait, la plupart du temps, c'est j'utilise pas mon Chromebook dans des contextes de productivité comme ça. En général, j'utilise vraiment pour, enfin, en gros, quand je suis sous Mac, petit secret, pour le boulot. Et donc, du coup, quand je bosse, et ben, je suis sur le Mac. Et en général, quand je prends le Chromebook, c'est bah, pour aller sur Internet, pour faire des achats, pour, je sais pas, enfin, ce genre de choses, quoi, répondre à des emails et tout ça. Et c'est vrai que bah, l'exemple que tu décris est assez logique, mais c'est pas forcément un usage que j'ai. Mais c'est pas forcément une mauvaise idée, tu vois. Je me rends compte que la prochaine fois que j'aurai un truc en particulier à rechercher, que ce soit pour un email que je suis en train de rédiger ou un truc comme ça, bah ouais, assistant est quand même pratique. C'est presque aussi rapide que d'ouvrir un nouvel onglet et de faire une recherche dans Google, en fait.
Ouais, tu gagnes. Alors, c'est pas, tu vas pas gagner 2 heures, hein, mais tu gagnes quelques secondes parce
Ouais.
qu'en fait, tu peux faire 2 choses à la fois. Tu
Bah
es
voilà.
capable de saisir du texte et lui dire autre chose. Donc, en
Voilà.
fait, quand j'ai terminé ma phrase, eh ben, il m'a donné l'information directe.
Ouais.
J'ai plus qu'à la copier-coller si j'en ai besoin ou la saisir quand c'est le cas. Mais moi, c'est comme ça que je l'utilise. Alors, il y a ça. Mais par exemple, hier matin, j'étais en train de rédiger un truc. Je rédigeais un mail et là, il y a mon alarme qui sonne. Il fait, oh, t'as rendez-vous à 11 h. Ouais, sauf que il était 10 h, je lui avais dit de me prévenir une heure avant, sauf qu'à l'endroit où je vais, il y a souvent des bouchons. Et du coup, bah, quand ça a sonné, je fais OK Google, à quelle heure je dois partir pour mon prochain rendez-vous? Et là, il m'a dit, bah, il y a le temps de partir. J'ai que 20 minutes de route normalement. Il me fait, là, il y a le temps de partir. Et il avait raison, hein, je suis parti quand il me l'a dit, et je suis arrivé pile poil à l'heure, quoi. Et
D'accord.
tu vois, j'ai continué à saisir mon mail pendant que je lui disais ça, en fait. Comme si je parlais à mon assistant qui était en face de moi, quoi.
Ouais. Non, mais ouais, c'est OK. Bah, tu vois, ouais, c'est des usages que j'avais pas forcément en tête, mais du coup, tu m'as presque convaincu. Donc, je vais réessayer et puis je te dis si ça me va,
Au
si ça me
prochain
parle.
rendez-vous, pas de
Voilà.
souci.
Exactement.
On parle encore un petit peu. Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? T'as mis des crochets partout. Mais pourquoi t'as mis des crochets partout?
Non, mais j'étais en train de me dire que ça fait un petit moment, ça fait déjà au moins 50 minutes qu'on parle là, et donc du coup, je me dis qu'il y a des actus sur lesquels il faudrait qu'on passe vite. On peut en parler, mais on en parle rapidement. Voilà les coulisses
Alors,
de l'épisode.
non, mais on peut parler de ça. On n'en a pas parlé, puis on va pas en parler si on n'en parle pas.
Non, vas-y, on en parle rapidement, on en parle rapidement.
Au moins de celui-ci, parce qu'un épisode du CKB Show sans Apple, c'est pas un épisode du CKB Show quand même.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, juste rapidement, Apple Music est disponible. Donc, Apple Music, c'est la plateforme de musique d'Apple, est disponible sur Chromebook via l'application Android. C'est juste énorme. C'est un pas en avant de Apple qui dit qui reconnaît enfin les Chromebooks et l'utilisation d'Android. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, je suis pas utilisateur d'Apple Music puisque je suis YouTube Music, mais j'ai trouvé ça très bien. C'est un frein baissé, tiré, supplémentaire, un frein en moins en tout cas, pour ceux qui avaient un iPhone, pas sur le Google Pixel, mais qui veulent garder leur playlist, leur Apple Music parce que ils avaient un écosystème familial où le papa il payait pour tout le monde et le fiston il veut pas forcément payer lui de son côté, donc il veut garder l'accès à Apple Music Family. Donc maintenant il peut prendre un Chromebook, il peut prendre un Pixel et il peut continuer à écouter sa musique Apple sur un Chromebook. J'ai trouvé ça génial. Apple s'ouvre vraiment au monde en ce moment.
Ouais. Mais alors attends, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste activé l'application, parce que l'application est présente sur Android depuis déjà pas mal de temps, voire je dirais plusieurs années. Et donc ils
C'est
l'ont
ça.
juste rendu disponible au... En gros, ils ont juste activé l'application pour les Chromebooks, c'est ça?
C'est ça, elle fonctionne maintenant complètement sur Chromebook.
D'accord. D'accord.
Donc, alors qu'avant, clairement, tu la lançais, te disait, enfin, tu pouvais même pas l'installer, il te disait ton produit n'est pas compatible.
D'accord. Ok.
Donc maintenant,
Ok.
tu as enfin ton application Play Music qui fonctionne pleinement. Alors moi, j'avais trouvé des astuces et des contournements pour les utiliser, mais là, c'est carrément mieux puisque c'est directement Apple qui nous permet de le faire et qui l'a indiqué. Attention, hein, c'est pas un truc. Oups, j'ai pas fait exprès. Il l'a vraiment
D'accord.
indiqué dans la notice
Prise en
de
charge des
l'application
Chromebooks.
Android.
D'accord.
Ouais.
D'accord, ok. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, donc t'as raison. C'est vraiment officiellement, ils l'ont même pas fait en cachette. Officiellement, ils annoncent le support des Chromebooks. Donc
C'est
on
ça.
imagine qu'il doit y avoir un Chromebook qui traîne à Cupertino pour pouvoir tester l'application Apple Music avant de la publier. Intéressant.
Non, mais ils reconnaissent simplement la suprématie des Chromebooks sur les Mac.
Ouais. Je pense que c'est exactement ça. D'ailleurs, ils l'ont pas écrit sur les notices de publication, mais je pense que c'est ce qu'ils voulaient dire.
C'est ça.
tu voulais rapidement parler des Progressive Web Apps aussi?
Ouais, rapidement, en 2-2, vous connaissez, on en a déjà parlé il y a 2 épisodes en arrière, c'est la possibilité d'accéder à des applications en ligne. Google vient juste de modifier encore une fois Chrome OS, et cette fois, tu vas avoir un petit plus dans l'URL à côté de l'URL du site internet qui est compatible PWA. Tu auras juste à cliquer sur le petit plus qui apparaîtra dans la notification à côté de la petite étoile favori, là où tu tapes vraiment le nom du site internet, et automatiquement, ça te créera ton icône et ça téléchargera la PWA. Enfin, l'accès à la PWA. Vraiment très très rapide, mais c'est vraiment bien parce que je suis assez fan de ça. Moins il y a de choses de télécharger sur mon Chromebook, plus j'ai de place pour le reste.
Parfait. On parle d'Acer rapidement, donc un petit
Acer,
retour
ouais.
sur l'interview que tu as enregistrée et que tu as publiée il y
Non,
a
non, 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 non,
quelques
non,
semaines.
non, 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 c'était Asus, fais pas le con.
Attends, quoi? Non, c'était Acer.
Non, c'était Asus.
T'es sérieux?
Oh là là, ouais, je te jure, j'ai enregistré avec Asus et avec Benjamin Collin, le PDG attaché au
Ah
Chromebook chez
mince,
Asus.
c'était
Et là,
Asus.
je parle d'Acer, donc un concurrent. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu l'interview comme Thomas de Asus et de Benjamin Collin, c'est le hors-série juste avant. Vous pouvez le retrouver dans la liste des podcasts. Donc là, je vais parler d'Acer, un autre constructeur
Et
qui
en
nous
même temps,
donne.
c'est quand même, alors pour insister sur la blague que j'ai faite tout à l'heure, les deux sont effectivement taïwanais. C'est deux sociétés qui ont été créées plus ou moins à 10 ans d'intervalle, enfin non, peut-être 15 ans d'intervalle. Donc Acer est clairement plus ancien que Asus, mais bon, quand même, c'est presque le même nombre de lettres. Ça commence par la même lettre, c'est le même pays d'origine. Je suis désolé. Bon,
C'est pas
d'accord,
grave. Et en plus,
je sors.
c'est ça. En plus, le nom de produit, ils sont sensiblement pareils.
Bah, j'osais pas le dire, mais je le pensais très fortement.
Donc pour la petite histoire rapidement, Acer donc a eu un événement le 10 de ce mois-ci, je crois, ou le 9, je sais plus. Et ils ont présenté deux nouveaux Chromebooks pour les entreprises, le 715 et le 714. Donc deux produits très très haut de gamme en châssis aluminium avec des processeurs. Enfin bref, vous irez voir. J'ai mis les liens dans l'émission, dans les notes de l'émission. Je voulais juste parler du 715, donc qui est clairement le plus haut de gamme, donc renforcé aluminium avec un écran juste magnifique. Et surtout deux choses qui sont assez notables. C'est pour ça que je voulais en parler. Ils viennent d'intégrer un capteur d'empreinte, donc qui permettra de faire de la double authentification, qui vous permettra d'ouvrir votre Chromebook en mot de passe et compagnie. Et puis une autre chose qui est hyper intéressante, Allô. Et là je sais qu'il y en a plein qui vont être très très contents s'ils n'ont pas encore lu l'article, c'est le premier Chromebook à avoir intégré un pavé numérique à droite du Chromebook. Donc c'est juste bluffant. Quand je l'ai vu à la présentation, en fait, il y a le trackpad, il était décalé à gauche et j'avais pas vu le pavé numérique. Je fais, mais ils ont décalé le trackpad, mais c'est moche. Et en fait, non, ils l'ont pas décalé, ils l'ont mis sous la barre espace et puis ils ont rajouté un clavier numérique à droite, un pavé numérique à droite. Et je pense que ça va aider beaucoup de gens qui utilisent Google Cheat et compagnie, qui cherchaient désespérément comment caps locker les touches numériques en haut du clavier. Parce que les claviers AZERTY, malheureusement, il faut caps locker les touches pour pouvoir jouer avec les numéros. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, je pense. Et c'est les premiers, et donc il fallait en parler.
Ok. Je suis désolé. Il y a des. Je pense que le son sera bon puisque tu enregistres de ton côté, mais il y a des moments où je t'entendais pas très très bien. Mais j'ai tout compris.
Donc c'est. Eh ben c'est parfait.
On enchaîne, on va vous parler d'Alexa un petit peu.
Ouais.
Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
On nous écoute. Tu le savais ?
Comment ?
Allô ? Tu savais qu'on nous écoute ?
Ah, je suis désolé, je t'entends. Ouais, ça y est, je t'entends, c'est revenu.
Tu savais qu'on nous écoute ?
Ouais, on nous écoute. On nous entend pas, mais on nous... Nous, on s'entend pas, mais on nous écoute.
Nous écoute. Et c'est pas nos auditeurs qui nous écoutent le plus.
Donc en fait Alexa, il y a eu un article, alors que je dis ça il y a le écho à côté de moi qui est en train de s'activer, donc ouais, il y a un article qui nous a annoncé que Alexa en fait passait certains, en gros il y a certains comment dire ça, certaines interactions avec Alexa qui sont enregistrées, donc tout est enregistré et tout est sauvegardé et gardé en mémoire. Donc déjà c'est un truc à savoir, vous pouvez voir tout votre historique de toutes vos conversations avec Alexa. Faut que vous alliez dans l'application, dans les settings, et il y a un mode vie privée ou quelque chose comme ça. Donc vous verrez toutes vos interactions avec Alexa. Mais en plus de ça, il semblerait que pour des questions d'assurance qualité, en fait, il y a de temps en temps certaines conversations qui sont passées à des opérateurs, donc des humains en fait, qui vont écouter la conversation et regarder la transcription qu'Alexa en a fait. Et donc ça va aider à un petit peu débugger et améliorer l'algorithme de comment est-ce qu'on appelle ça, de traduction, enfin de langage, de traitement du langage, ça y est, je trouvais. Et donc voilà, et donc c'est un peu comment dire, dans une certaine mesure c'est pas complètement surprenant, parce qu'on se doute que il faut effectivement, pour que le produit s'améliore, qu'il y ait de temps en temps des humains qui soient un petit peu ajoutés dans le mix pour essayer de voir un petit peu là où ça pêche et là où ça marche pas. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'en fait c'était effectivement le cas, et qu'il y a Amazon qui a admis le fait que oui, en effet, un certain nombre d'opérateurs écoutent les conversations, et donc il y a des journalistes qui sont penchés sur la question, et il semblerait que vous avez, oui, des gens qui écoutent les conversations et de temps en temps qui les font circuler, un peu comme on pourrait imaginer, hein, voilà, vous êtes entre collègues au bureau, ça arrive souvent que des choses marrantes circulent. Là c'est votre conversation avec Alexa qui est par moment probablement la risée de ces opérateurs là là c'est moi qui extrapole un petit peu, mais on peut imaginer comment les choses se passent. Tiens, regarde, écoute celle-ci, elle est marrante, regarde là, elle est en train de dire ça, et regarde ce qu'Alexa comprend. Donc voilà, donc si vous vous imaginiez que vos conversations avec Alexa tombent dans un trou noir et ne sont analysées que par l'algorithme, détrompez-vous et dites-vous que de temps en temps des humains sont aussi ajoutés aux conversations.
Eh ben c'est génial. Moi, étant donné que j'en ai un dans mon salon qui se déclenche à chaque fois que la télé dit un truc qui finit par la lettre A, eh ben du coup ils écoutent quasiment la totalité de ma journée finalement.
Ouais.
C'est bien, c'est bien. Et vu qu'il comprend pas ce que je lui dis puisque je ne lui parle pas à ce moment-là, donc ouais c'est intéressant, c'est
Ouais.
intéressant. Mais c'est pas les seuls apparemment.
Non, a priori, c'est pas les seuls. Alors après, Google aussi, donc Google garde l'intégralité de vos conversations et vous permet de les réécouter par la suite. Je sais pas, il n'y a pas comment dire, une affirmation aussi officielle que pour Amazon, où en effet il y a des humains derrière qui vont comparer ce que l'assistant a compris et ce que vous avez dit. Mais c'est probable, on va dire, pour le dire simplement. Un truc par contre à savoir, c'est que Alexa, vous pouvez, si vous le voulez, désactiver ça. Donc pareil dans les settings, vous pouvez en gros activer, enfin désactiver le settings qui fait. Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros c'est le partage de vos informations pour amélioration du service ou quelque chose comme ça. Donc je suis en train de regarder. Moi j'ai l'application en anglais. Mais en gros, si vous allez dans le menu, si vous allez dans le menu Alexa, qui est les settings en fait, enfin les paramètres sont probablement en français. Si vous avez, je crois que c'est compte Alexa ou quelque chose comme ça. Bref, vous pouvez désactiver. Après, il y a Alexa, donc ça doit être vie privée probablement en français, Alexa Privacy. Et si vous allez tout en bas, vous avez quelque chose qui vous dit. Voilà, configurer la façon dont votre data améliore Alexa. Donc tu vois, c'est ça l'idée, c'est vous aider Alexa à devenir meilleur en permettant aux opérateurs humains d'écouter vos conversations. Donc voilà,
C'est
donc vous trouvez
gentil.
ça Amazon Alexa, et il y a quelque chose qui vous permet de désactiver, en gros, permet à Alexa d'utiliser vos messages pour améliorer la transcription et la précision de transcription. Donc vous pouvez désactiver ça, et du coup a priori ça vous met à l'abri d'avoir des petits humains qui vont écouter vos conversations. Ça me fait un peu penser aux elfes du Père Noël, tu vois, c'est les gens qui travaillent un peu discrètement et qui permettent à ce moment magique de se produire et d'avoir Alexa qui comprend ce que vous dites, sauf qu'il y a des petits elfes derrière qui
C'est
contrôlent
super beau ce que tu dis, tu sais.
Qui supervise le processus. Bah, tu sais, je suis un ingénieur, mais je reste un grand enfant dans l'âme.
Ouais, je vois ça, moi j'ai presque une larme quand tu l'as dit.
Hein. On enchaîne, on parle super rapidement des Pixel et Pixel Book. Ça fait longtemps qu'on parle, donc je me dis qu'il serait peut-être temps qu'on conclue. Je
Qu'on
sais pas ce
s'en
que t'en
aille.
penses.
Ouais, on parle vite fait des Pixelbooks parce qu'on n'en sait pas grand-chose. On sait juste que on pensait qu'ils n'allaient pas en faire, en fait, qu'ils n'allaient pas en refaire cette année. Et ben, il s'avère que Google dit clairement qu'ils vont en faire un autre, qui est déjà dans les tiroirs d'ailleurs. Hein, il est prêt à sortir visiblement. J'ai pas tout lu. Je sais pas ce qu'il va y avoir dedans, mais apparemment il y a beaucoup de choses. Il sera très puissant. Bref, je sais pas si toi t'as vu plus que moi pour l'instant.
Ouais, non, bah c'est des rumeurs, donc finalement je pense que on sait pas trop. Je pense qu'à Google, comme tu dis, le plan, vu que c'est quelque chose qui va probablement être annoncé à l'automne, les choses doivent être plus ou moins fixées maintenant, parce qu'il va falloir commencer à produire le matériel et produire au moins les prototypes. Donc je pense qu'ils savent à peu près ce qu'ils vont faire, et c'est vrai qu'on parle d'un Pixelbook, donc a priori les tablettes, enfin les slates, un petit peu comme ils avaient annoncé la dernière fois. Bah, on pensait que les Pixelbook allaient disparaître au profit des Slate, voilà, c'est ça que je veux dire. Et il semblerait que ce soit pas complètement le cas, et peut-être que Google va sortir un nouveau Pixelbook. Mais comme tu dis, on n'en sait pas des masses, donc on va attendre. Mais voilà, tenez-vous prêt pour un nouveau Pixelbook, probablement en octobre. Donc ça c'est pour le Pixel, c'est pour le Pixelbook plutôt, mais il y a aussi des Pixels en préparation. Donc il y a un Pixel 3 Lite, donc une version un petit peu plus, comment dire, légère du Pixel 3. Qui, en gros, je sais pas, qui est plus ou moins annoncé, et puis après démenti, et puis après réannoncé, et puis après c'est silence radio pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et puis après on en reparle de nouveau. Donc a priori, voilà, il semblerait qu'il y ait un Pixel 3 qui va sortir, un Pixel 3 Lite plutôt, qui va sortir probablement dans les semaines à venir, voire les mois à venir, qui devrait être annoncé rapidement. Et puis il y a aussi un Pixel 4. Qui donc lui pour le coup serait la nouvelle version du Pixel. Donc le Pixel 3 Lite, on parle d'un appareil qui serait un tout petit peu plus on va dire moyen de gamme, entre guillemets, parce que le Pixel 3 est quand même un appareil haut de gamme. Mais on parle d'un appareil avec probablement un petit peu des specs un petit peu plus au-dessous du Pixel 3, qui existerait en Lite classique et en XL aussi. Donc voilà. Donc a priori, et puis un truc en particulier, je vais pas rentrer dans les détails des specs parce que c'est pour l'instant que des rumeurs, mais il semblerait que la prise jack soit de retour sur le Pixel Lite, donc Pixel 3 Lite, donc à suivre.
C'est bien.
Je t'entends réagir, Nico, ça te fait plaisir.
Un Pixel Lite, je sais pas à quel point il serait intéressant, mais ça va. Moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que les rumeurs. Alors, est-ce que c'est le Pixel Lite ou le Pixel 4 Il semblerait qu'ils voudraient refaire la même stratégie commerciale qu'ils avaient fait avec les Nexus, donc en gamme de prix, avoir des produits plus abordables. Et parce que là, on est clairement sur des produits très chers. S'ils veulent s'attaquer à un marché, enfin, s'ils veulent prendre des parts de marché à Apple, bon. Bah pourquoi pas, mais les fans d'Apple vont pas aller sur un Pixel parce que c'est un Pixel. Certains préfèrent garder leur vie privée parce que Apple dit qu'ils gardent leur vie très très privée, tout ce qui est sur un iPhone reste sur un iPhone. Donc s'ils veulent s'attaquer à ce marché-là, ils sont obligés de descendre un petit peu en gamme de prix. Et moi je serais intéressé de voir des prix revenir à la normale aux alentours de 500 balles pour un produit comme ça. S'ils pouvaient le faire, je serais preneur, je retournerais à nouveau chez eux, parce que pour l'instant je ne suis plus chez Pixel, j'ai changé à nouveau de téléphone, je suis reparti sur Oppo là.
D'accord. C'est vrai que c'est ça, c'est que les appareils chinois en fait arrivent avec des specs qui sont plus que bonnes, voire très très bonnes pour des prix qui défient toute concurrence. Donc je pense que les Pixels qui étaient un petit peu un coup d'essai à la base sont en train de devenir essayent de devenir mainstream, au moins en Amérique du Nord. Et du coup, bah, il faut qu'ils se placent correctement en termes de prix. Donc c'est assez logique du point de vue commercial de faire un Pixel 3 Lite. Et donc du coup, il y aurait aussi un Pixel 4 qui lui arriverait à l'automne, comme tous les ans. Pour l'instant, a priori, il y a quand même pas mal de choses qui commencent à leaker, qui commencent à fuiter. Donc je sais pas exactement ce qu'il en sera. Mais faut s'attendre à plus d'encoche, mais plutôt un poinçon, un peu comme les Galaxy, les nouveaux Galaxy S10. Et puis peut-être même un lecteur d'empreintes directement intégré dans l'écran. Donc ça, c'est pas encore complètement certain, mais ça pourrait être une possibilité. Donc voilà. Donc à voir. Pour l'instant, beaucoup de rumeurs parce qu'on est quand même encore assez tôt dans le processus, mais je pense qu'on va commencer à voir des choses arriver bientôt.
Ouais. Et tous ces produits seront annoncés sûrement avec la sortie officielle de Android Q, qui en est à sa version 2, je crois.
Version 2 de la bêta, donc je l'ai testé un petit peu. Il y a des choses vraiment chouettes. Ça commence à devenir. Enfin, à chaque fois c'est un peu plus joli. Donc je suis assez content. J'ai assez hâte de voir ça arriver rapidement. Je pense que oui, ils vont probablement l'annoncer pour Google I/O. Enfin, annoncer le lancement pour Google I/O.
Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver fin d'année, donc on sera sur le qui-vive pour vous en parler. Je crois qu'on a fait le tour, Thomas, hein. On va les laisser partir, hein, parce que là on les tient en otage en disant qu'on a encore plein de choses à dire, mais on va arrêter parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc si vous voulez retrouver plein d'autres informations, n'hésitez pas sur mychromebook.fr, échangez avec nous sur Telegram, sur Twitter, sur CKB Show. Bref, vous nous retrouvez un petit peu partout, je remettrai les liens dans la fin des notes de l'émission. Thomas, je vais te laisser te reposer. On est dimanche pour toi, et en plus dimanche midi maintenant, je pense tu vas aller manger même. On te retrouve sur Twitter toujours, je laisse me dire ton nom parce que j'ai toujours du mal.
@léthargiquepanda sur Twitter, n'hésitez pas à interagir avec nous. Et puis on est aussi sur le Twitter du CKB Show, pareil, n'hésitez pas à interagir avec nous. Je crois que c'est CKB. Oh, je devrais le savoir par cœur.
En plus, c'est toi qui l'as créé. CKB_show.
CKB_show sur Twitter. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Le trait du bas.
Et toi, Nico, où est-ce qu'on peut te retrouver, Nico, sur Twitter?
Eh ben, sur Twitter, ben, Nico Chromebook, et puis ben, sur mychromebook.fr, vous me retrouvez, vous, il y aura tous les liens. N'hésitez pas à nous interpeller, à nous poser vos questions. On aimerait savoir ce que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois, sur le prochain épisode du CKB Show. On a des trois surprises qui arrivent. Et puis, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, ben, je vous mettrai dans les notes de l'émission comment récupérer le mug. Hein, comme ça, il
Ah,
faudra lire les notes en plus. D'accord?
voilà.
Comme ça, on a le temps d'y travailler en off, Thomas. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée s'il se fait tard. Et puis je vous dis à la prochaine. Bonne soirée à tous et à bientôt.
À la prochaine, ciao. Thank you.